droit au quotidien, votre magazine de promotion et de vulgarisation du droit. Présentation Aoussi Potin.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet autre numéro de votre magazine Mon droit au quotidien. Nous retrouverons aujourd'hui dans quelques instants notre invité de la semaine dernière, savoir maître Francine Aka Anguille, avocate près le barreau de Côte d'Ivoire et présidente du conseil d'administration de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, en abrégé AFJCI, une association qui célèbre cette année ses 40 ans d'existence et avec laquelle nous avons décidé de passer en revue certaines réformes en matière de loi en Côte d'Ivoire, les avancées aussi notées dans des domaines précis comme la lutte contre les violences basées sur le genre, la lutte contre les grossesses en milieu scolaire, mais aussi les réformes intervenues dans le domaine de la loi sur la famille. Soyez les bienvenus à votre magazine Mon droit au quotidien.
Deux fois par semaine, rendez-vous pour découvrir vos droits et devoirs dans Mon droit au quotidien.
Maître Francine Aka Anguille, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouverons, toute l'équipe de Mon droit au quotidien ce jour. Bonjour à vous.
Bonjour monsieur Aoussi.
Merci d'avoir répondu encore présente à cette seconde et dernière partie de l'entrevue que vous nous accordez.
Déjà dernière.
Oui, dernière. Bon, malheureusement, les bonnes choses ayant une fin, mais aussi c'est pour permettre aux auditrices, auditeurs, n'est-ce pas, de rester un peu sur leur fin. Mais nous espérons que nous serons assez précis par rapport au point que nous aurons donc choisi. Mais ils auront aussi l'occasion après, n'est-ce pas, de chercher à s'informer eux-mêmes. Pourquoi pas de venir vers vous, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est important.
Tout à fait. Merci beaucoup justement pour cette opportunité que vous nous donnez de nous présenter à nouveau et surtout de dire à vos auditeurs que l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire a son siège au plateau, non loin du cercle de la RAI. Le numéro de téléphone, je vous le donne, 07 09 32 45 98. Vous pouvez venir nous voir tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Vous aurez quelqu'un pour vous écouter, vous orienter, vous donner des conseils juridiques, vous donner l'assistance nécessaire et ça ne coûte que 1000 francs.
Pas du tout cher lorsqu'on parle des droits et devoirs de l'individu. Alors, maître Francine Aka Anguille, avant que je n'en vienne donc aux questions portant sur les points que nous verrons aujourd'hui, juste savoir, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, est-ce parce qu'on dit femmes juristes de Côte d'Ivoire que vos actions seraient exclusivement à l'endroit des femmes et des filles seulement?
Non, pas du tout, justement. Nous recevons aussi bien les hommes que les femmes, les jeunes filles que les jeunes hommes. Mais Association des femmes juristes, parce que c'est une association qui a été créée par des femmes, juristes, professionnelles du droit, et dont les membres sont essentiellement effectivement des femmes juristes. Mais nous avons des hommes qui sont nos membres associés et qui nous aident aussi sur le terrain pour faire la vulgarisation du droit.
Voilà, très bien. Merci pour cette précision qui était importante aussi à notre humble avis. Alors, passons à présent au point que nous verrons aujourd'hui, au sujet qui va donc nous retenir notre attention aujourd'hui avec vous. Je rappelle juste pour ceux qui ne nous auraient pas suivis la semaine dernière, que la semaine dernière, nous avons donc eu l'occasion de parler de votre association, de ce qu'elle fait, des avancées majeures qu'elle a eu à noter, surtout lorsque l'on parle donc des réformes dans le domaine du droit de la famille. Mais aussi, nous avons eu la semaine dernière à parler du quota de 30% quant à la participation des femmes au niveau donc du champ politique ivoirien et aussi d'avancer dans le domaine du mariage, de la succession et de la filiation, entre autres. Voilà. Aujourd'hui, nous parlerons de la lutte contre les violences basées sur le genre et nous terminerons par la lutte aussi contre les grossesses en milieu scolaire. Alors, commençons par donc les violences basées sur le genre, en abrégé VBG. Tout d'abord, maître Francine Aka Anguille, lorsqu'on parle de violences basées sur le genre, de quoi s'agit-il pour qu'on puisse bien se comprendre?
D'accord. Donc, les violences basées sur le genre, ce sont des actes nuisibles ou préjudiciables, c'est-à-dire que c'est un dommage que vous causez à une autre personne du fait de son genre, c'est-à-dire parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme ou parce que c'est une personne en situation de handicap. Vous lui causez cette violence-là de ce fait.
Voilà, on a voulu commencer par là parce que généralement quand on parle de VBG, on voit uniquement les femmes. Mais ça concerne autant les hommes que les personnes handicapées.
Tout à fait.
Très bien, merci à vous. Alors, en mars 2024, le Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre soulignait que 8782 cas de VBG avaient été rapportés et pris en charge en 2023. Et parmi ces 8782 cas de VBG figuraient entre autres 1067 cas de viol, 6717 cas de violences domestiques et 3000 283 cas de violence perpétrés sur des enfants de moins de 18 ans. Des chiffres qui vous ont alarmé, qui vous alarment au niveau de l'AFJCI?
Oui, des chiffres qui nous alarment, mais qui nous alarment parce que la réalité même, c'est que ces chiffres sont beaucoup plus élevés. Ce sont les cas déclarés. Mais dans la réalité, je pense que chiffre peut être multiplié par 2 ou par 3. Puisque, vous savez, les gens ne dénoncent pas souvent ces cas-là. Ou même, quand ils commencent à les dénoncer, ils retirent les plaintes. Il y a beaucoup d'arrangements à l'amiable. Et finalement, on se tait sur ces cas-là. Et donc, quand c'est comme ça, ces cas ne sont pas pris en compte dans les statistiques. Donc, nous sommes alarmés parce que c'est une réalité. Et là, vous avez cité quelques cas de VBG, mais je vais vous dire qu'il existe 6 types de VBG.
Oui, allez-y, allez-y, je vous en prie.
Le viol, les agressions sexuelles, les agressions physiques, le mariage forcé, le déni de ressources ou d'opportunités et la maltraitance psychologique et émotionnelle. On n'en parle pas suffisamment, mais ça fait partie des VBG.
Alors, sur ces deux derniers types-là, le déni de ressources et la maltraitance psychologique et autres, j'aimerais qu'on s'apaisantisse un peu, parce que comme l'indiquait, peut-être c'est des cas dont on ne parle pas beaucoup. Il est donc important que nos auditrices et auditeurs en aient une bonne compréhension. Lorsqu'on parle donc en rapport avec les VBG, violences basées sur le genre, de déni de ressources, de quoi s'agit-il, Maître Francine Aka?
Alors, le déni de ressources, c'est le fait d'empêcher l'autre d'avoir accès à des ressources, justement. Exemple, quand on empêche une femme de recevoir une parcelle de terre, alors que c'est son héritage, mais on lui fait le déni. On dit, toi, comme tu es une femme, comme on dit chez nous, femme n'hérite pas de terre. Voilà, pour parler en ivoirien, vraiment.
On va dire terre à terre.
Terre à terre.
Langage commun.
Langage commun, exactement. Donc ça, c'est du déni de ressources. Parce que la loi dit qu'on hérite de ses pères et mères, qu'on soit une fille ou qu'on soit un garçon. Donc, vous êtes une fille, vous êtes une femme, vos parents décèdent, ils vous laissent de la terre, on refuse que vous ayez accès à cette terre. C'est du déni de ressources. Un autre exemple de déni de ressources, un compagnon, un conjoint qui empêche sa femme de travailler.
Alors qu'elle veut travailler.
Elle veut travailler.
Parce qu'il y en a qui ne veulent pas travailler.
Oui,
ça, c'est d'un commun accord dans le couple.
D'un commun accord, vous pouvez être femme au foyer, c'est pas ça. Un problème.
Mais là, c'est le cas où la femme veut travailler.
Veut travailler et on dit non. Je ne veux pas que tu ailles travailler parce que peut-être pour des raisons de jalousie ou je ne sais trop, tu restes à la maison, tu t'occupes des enfants. Ça, c'est du déni de ressources. Un autre exemple aussi dont on ne parle pas souvent, c'est empêcher la femme d'utiliser des moyens de contraception. Ça aussi, c'est du déni parce que elle vous dit, je ne veux pas d'enfants, je veux prendre des précautions pour ne pas. Mais non, moi, il n'y a pas de contraceptif qui tienne, je ne veux pas. Ça, c'est une forme de violence.
Voilà. Alors, l'autre, c'est donc les violences psychologiques. Voilà.
Alors, les violences psychologiques, comme je disais, on n'en parle pas beaucoup parce qu'elles ne sont pas faciles à prouver. Parce que c'est des blessures mentales, c'est du harcèlement, c'est des paroles blessantes, vexatoires, dégradantes, humiliantes. Mais comment vous prouvez? Quand vous êtes entre quatre murs et qu'on vous traite comme une moins que rien ou comme un moins que rien, parce que les hommes aussi sont victimes de ça, même si c'est la proportion est moindre. Mais voilà, comment vous prouvez qu'il a passé toute la nuit à vous insulter, que elle, quand elle vous sert à manger, elle vous balance le plat sur la table?
Donc, la matérialisation des faits.
Des faits. Alors que aujourd'hui, vous entendez beaucoup parler de santé mentale.
Exactement.
Parce que justement, c'est des problèmes qui sont très récurrents.
Ça pourrait être aussi une des raisons qui pourrait expliquer les suicides qu'on observe bien des fois maintenant en Côte d'Ivoire.
Exactement.
Ce n'est pas la cause principale, mais sûrement une des causes.
Une des causes.
Alors, est-ce qu'en milieu professionnel aussi, cette violence psychologique aussi, vous n'avez pas peut-être dans vos recherches peut-être noté
en milieu professionnel, une
recrudescence aussi?
Une recrudescence, mais la loi aussi interdit le harcèlement. Harcèlement moral, harcèlement sexuel. Voilà, en milieu de travail, vous pouvez poursuivre votre employeur en cas de harcèlement sexuel ou moral.
D'accord. Alors, comme vous en avez l'habitude, c'est un point important. Ce serait bien que vous expliquiez un peu à nos auditeurs qui nous écoutent. Je suis une femme, je travaille et puis je sens que je suis victime d'harcèlement sexuel ou harcèlement moral. Vous dites qu'on peut poursuivre en justice. Oui. Ça peut être aussi un homme.
Oui, bien
sûr. Alors, quelles sont les voies qu'offre la justice à ce niveau, en quelques mots?
Alors, les voies, je veux dire, vous allez à l'inspection du travail. Bon, le problème sera toujours le problème de la preuve. En droit, c'est ça qui est un peu difficile, c'est la preuve. Il faut toujours apporter la preuve de ce qu'on avance. Et le harcèlement, ce n'est pas juste parce qu'on vous a tapé peut-être une fois sur les fesses en passant, ou bien, voilà, ce n'est pas ça. Il faut que ce soit des agissements répétés et qui vous rendent le travail difficile, en fait. C'est-à-dire, vous voyez, vous venez au travail, mais vous avez la peur au ventre.
C'est ça.
Vous vous dites, mais c'est vraiment, comment
des
je vais faire?
Des nuits blanches, même, blanche. À se demander, bon, voilà. J'ai me réveiller, c'est encore là-bas.
Voilà, donc quand c'est comme ça, au niveau de la preuve, je veux dire, c'est bon, par exemple, de voir le médecin d'entreprise, vous voyez, ou bien de voir le délégué syndical à qui vous allez exposer la difficulté. Quelqu'un, en tout cas, de la hiérarchie, à qui vous allez expliquer cette difficulté. Mais il faut que ce soit quelque chose de répété, j'insiste, que ce soit la même personne, que ce soit répété et que ce soit fait vraiment avec une intention malveillante.
Est-ce qu'au niveau de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, vous avez eu à accompagner des hommes ou des femmes dans ce genre de situation? Est-ce que ça aboutit à quelque chose de positif pour eux?
Bon, parfois ça n'aboutit pas, mais bon, moi j'ai eu un cas personnellement en tant qu'avocate même où ça aboutit. Où ça aboutit
c'était
parce
un homme
que
ou une femme?
C'était une femme. Bon. Malheureusement, c'est souvent les femmes qui sont victimes, sont victimes de ça. Et on a pu apporter la preuve parce que là, il y avait des mails, il y avait des échanges vocaux. Enfin, vraiment, c'est évident que la dame, elle était vraiment harcelée.
Alors, je m'apprête à vous demander quelle est la contribution de la FJCI dans la lutte contre les violences basées sur les genres en Côte d'Ivoire.
Alors, la contribution, écoutez, on fait partie de la plateforme des acteurs de lutte contre la violence basée sur le genre. Il y a une plateforme qui a été mise en place par les autorités, donc par le ministère, par le programme national de lutte contre les violences basées sur le genre. Et dans cette plateforme, donc, la FJCI, il y a les autorités policières, il y a les autorités sociales, voilà. Donc, on fait partie vraiment on fait partie des acteurs de cette lutte.
Si vous venez donc de vous connecter sur Radio de la Paix, notez que vous êtes à l'écoute du magazine Mon Droit au quotidien. Je reçois aujourd'hui dans nos studios Maître Francine Aka Angui. Elle est avocate près le barreau de Côte d'Ivoire. Elle est la présidente du conseil d'administration de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, en abrégé AFJCI. En sa compagnie, nous parlons bien sûr de cette association qui a 40 années d'existence cette année 2024, mais aussi de ce qu'elle fait en matière de lutte contre les violences basées sur le genre, en abrégé VBG. Et dans quelques instants, nous parlerons aussi de ce qu'elle fait, donc, cette association en ce qui concerne la lutte contre les grossesses en milieu scolaire.
Mon droit au quotidien, votre magazine d'information pour connaître et comprendre vos droits et devoirs sur la fréquence de la paix.
Je reviens à vous, Maître Francine Aka Angui. Abordons le dernier virage donc de notre second rendez-vous, savoir donc la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Nous avons décidé d'en parler avec vous parce que malheureusement, ça devient très préoccupant. Ça dépassait les limites de l'alarme en Côte d'Ivoire. Je voudrais juste vous partager ces chiffres-ci. En 2021-2022, 5833 cas de grossesse ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a documenté sur la période allant de septembre 2022 à avril 2023, donc sur 8 mois et non une année, 3588 cas de grossesse en cours de scolarité en Côte d'Ivoire, soit une hausse de 5%. Alors sur ce sujet-là, d'abord, quel regard porte l'AFJCI sur ces chiffres qui sont tout aussi alarmants?
Mais nous sommes catastrophés, évidemment. Nous sommes catastrophés, et ce, d'autant plus que la sensibilisation est faite sur ce fléau-là, et les chiffres augmentent. Donc, il y a un problème. Est-ce que notre message
ne passe pas?
Quel est le problème, en fait? On se dit, il y a vraiment un problème, et il faudrait prendre ce problème à bras le corps. Et pas juste faire des petites sensibilisations. Je pense qu'il faut qu'on fasse des assises au niveau de l'éducation nationale pour voir, mais quel est le problème? Nous avons quand même déjà réfléchi un peu en interne. Et bon, je pense que je devance votre question.
Non, allez-y, c'est pas grave. Allez-y, on peut en parler déjà, ce que vous faites. Allez-y.
Voilà, parce que c'est vrai qu'on fait de la sensibilisation dans les écoles. Par exemple, nous, cette année, le 8 mars, au lieu d'aller parler uniquement qu'aux femmes, nous sommes allés dans les écoles au centre à Sakassou. Nous avons, parce que c'est une ville où il y a vraiment beaucoup de collèges, beaucoup de lycées, nous sommes rendus là-bas pour parler aux jeunes filles de cette question-là, le 8 mars. Parce qu'on dit que c'est la journée internationale des droits de la femme. Vous êtes des jeunes filles, vous êtes des futures femmes. Donc si déjà, vous ne connaissez pas vos droits dès maintenant, comment plus tard vous allez pouvoir vous...
Voilà. Tout à fait.
Mais on dit ça pourquoi? Parce que je pense qu'on ne fait pas suffisamment le lien des grossesses en milieu scolaire avec les mariages forcés, qui font partie des VBG. Je vous les ai cités tout à l'heure. On marie encore beaucoup les jeunes filles avant 18 ans.
Dans les régions de la Côte d'Ivoire jusqu'à présent, au 21e siècle.
Oui.
Et au seuil du 22e siècle.
Oui. Mmh. Il y a encore beaucoup de mariages précoces. Donc, mariage précoce. Évidemment, vous ne pouvez pas savoir forcément que la jeune fille, elle est mariée. Elle va à l'école. Elle est mariée. Elle va faire des enfants.
Absolument.
Donc ça, je pense que c'est une des causes auxquelles on ne s'attaque pas vraiment.
Est-ce qu'en dehors donc des mariages forcés, il y a autre cause
que
vous voyez?
Il y a d'autres causes.
Sans être exhaustif, hein, mais celles qui vous paraissent les plus pertinentes.
Les plus pertinentes, déjà, les collèges, il n'y a pas d'internat.
Les zones rurales les qui zones... viennent donc en zone urbaine.
En zone urbaine, bon... L'enfant, souvent, est livré à lui-même. Les parents se débrouillent, ils louent des petites maisons, des appartements, des studios, où les enfants vivent ensemble. Parce qu'on dit grossesse, c'est l'auteur de la grossesse n'est pas forcément un adulte, hein. C'est souvent entre jeunes même.
La même classe d'âge.
La même classe d'âge.
Ok.
Ça commence par ça. Ils vivent dans la promiscuité, sans autorité, sans parents. Bon, donc ça, c'est déjà le premier danger. Ensuite, effectivement, même si c'est pas la même tranche d'âge que ce sera un adulte, vous allez voir que c'est l'adulte censé être responsable de l'enfant. Donc, le tuteur en griffe.
Bon, à la limite, dans ce cas, il devient irresponsable. Parce qu'il abandonne donc sa touche de tuteur.
En fait, vous avez dit le mot même. Je pense que nous avons un gros problème de responsabilité dans notre pays. Problème de responsabilité. Parce que c'est à tous les niveaux. Vous voyez, là, j'étais en train de vous citer. Après, il y a les enseignants. Les enseignants aussi qui, bon, voilà, pour donner des bonnes notes, pour ceci, pour cela, voilà. Aussi, profitent de ces jeunes filles qui sont toutes innocentes et tout ça. Donc, vous voyez, tout ça, c'est une question de responsabilité. Quand on est tuteur, on a la responsabilité de parent. On ne devient pas le petit copain de la personne dont on est le tuteur.
C'est ça.
Quand on est enseignant, on a la responsabilité d'enseignant, d'éducateur. On ne doit pas non plus aussi devenir le petit copain de... Voilà. Oui, donc je pense que vraiment, il y a un problème de responsabilité à tous les niveaux. Puis les parents aussi. Parce que les parents, vous mettez les enfants dans des maisons, dans des appartements, vous payez et pour vous, vous avez tout réglé. Une fois que vous avez payé la maison, vous avez donné un peu d'argent pour qu'on paye un peu de riz, un peu de viande, c'est suffisant.
Non.
Voilà.
D'accord. Je voulais préciser, Maître Francine, lorsque donc vous parlez de problème de responsabilité, c'est bien circonscrit à notre sujet du jour.
Bien sûr.
Donc, pour ne pas que d'autres se sentent égratignés. Voilà. Surtout donc, responsabilité déjà au niveau du corps enseignant, au niveau des parents, au niveau aussi de ceux qui acceptent d'être les tuteurs de ces jeunes filles-là. Donc, c'est important que chacun puisse faire son mea culpa.
Et puis, le comportement des jeunes filles elles-mêmes aussi. Parce qu'il y a ça aussi. Voilà, quel comportement vous-même vous avez aussi.
Responsabilité individuelle.
Voilà.
Bon, on espère que les campagnes de sensibilisation que vous menez, elles en perçoivent le bien fondé et aussi...
Apparemment, non, vu que les chiffres augmentent.
D'accord, mais comme vous le dites, on va pas, c'est pas elle seule. Il y a aussi d'autres facteurs. Il y a d'autres personnes aussi qui n'ont pas encore perçu l'importance pour elles, ces personnes, de laisser ces jeunes filles poursuivre tranquillement leur scolarité. Alors, vous allez continuer vos actions dans ce domaine aussi, hein, de toute façon. Et qu'est-ce que vous pensez aussi de l'engagement donc des pouvoirs publics, des autorités en rapport avec donc cette lutte contre les grossesses en milieu scolaire, pour finir sur ce point?
Alors bon, je pense que les autorités font leur possible.
Il y a une synergie d'action avec vous?
Bon, oui, avec nous, mais pas suffisamment. Pas suffisamment. Nous, aujourd'hui, c'est un peu ce que nous décrions. Nous estimons que nous n'avons pas suffisamment le soutien des autorités locales. Parce que vous voyez, les populations aujourd'hui, malheureusement, tout est politisé. Donc, elles écoutent plus leurs hommes ou femmes politiques que nous, société civile. Et donc, on fait ce plaidoyer aujourd'hui auprès des autorités locales pour dire « accompagnez-nous dans ces campagnes de sensibilisation-là ». Parce que quand vous, vous venez passer le message en langue, parce que ça aussi c'est important, dans votre langue, vous êtes les enfants de la région, vous êtes les enfants de la communauté. Quand vous, vous venez passer ces messages-là, les personnes sont plus réceptives. Vous voyez, nous, quand on va venir, c'est vrai, c'est l'association, on va venir, on va venir des t-shirts, des casquettes, on met la musique, on distribue de l'eau, et
mais tout. Ça, c'est ponctuel.
C'est ponctuel, c'est ponctuel. Mais quand les autorités locales s'engagent elles-mêmes, passent ce genre de message, vous voyez, c'est beaucoup plus productif. Ça a beaucoup plus d'effet.
C'est ça. Disons, est-ce qu'aussi on pourrait pas parler d'avancée lorsqu'on s'en réfère au nouveau code pénal ivoirien? Je n'ai pas l'article sous les yeux, mais qui par exemple en vient donc à bien spécifier c'est quoi le viol, les cas de viol, mais aussi le consentement. La majorité aujourd'hui, une jeune fille qui n'a pas encore
18 ans,
voilà, si vous couchez avec elle, c'est considéré comme un cas de viol. Ça aussi, c'est une protection pour la jeune fille, c'est à noter aussi.
Monsieur, aussi, au niveau des textes, la Côte d'Ivoire a fait plus que des avancées.
Très bien.
Voilà, vraiment, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, la jeune fille est vraiment protégée par les textes. Maintenant, c'est la pratique, en fait. Parce que pour que les textes s'appliquent, comme je vous disais au début, il faut dénoncer. Il faut porter ces cas à la justice pour que la justice puisse mettre en application ces textes. Mais si ces cas ne sont pas portés à la justice, on ne peut pas appliquer les textes de loi. D'où l'importance de la dénonciation. Mais nous avons encore la tradition du règlement à l'amiable. Vous voyez, quand ces cas-là se produisent, justement, un cas de, comme vous dites, rapport sexuel avec une fille de moins de 18 ans, considérée comme un viol, bon, vous voyez que les personnes veulent régler ça à l'amiable pour ne pas que l'auteur du viol soit condamné. Donc, les textes, malheureusement, on a du mal à les appliquer. Sinon, on est vraiment protégé par les textes.
Donc, l'importance pour tous, en tout cas, et toutes, hein, pour revenir, donc, comme vous le disiez plus haut, parlant de responsabilité, de bien connaître les articles de la loi.
Je veux profiter, et de les appliquer aussi. Je profite de votre micro aussi pour parler d'un cas. Vous avez parlé du cas de relations sexuelles avec une fille mineure. Mais vous savez que le viol conjugal est réprimé par la loi. Ça, quand on le dit, les gens disent, mais comment ça? C'est ma femme, je peux... Non, parce que si vous avez des relations avec votre épouse, des relations non consenties, forcées, violentes, ça peut être assimilé à un viol. Ça peut être incriminé comme un viol. Et voilà. Vous pouvez être poursuivi pour ça.
Merci beaucoup, Maître Francine Akangui, je rappelle, avocate près le barreau de Côte d'Ivoire, président du conseil d'administration de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, en abrégé AFJCI. Nous avons été très heureux sur deux rendez-vous dans le cadre de Mon droit au quotidien de vous recevoir pour parler donc de l'AFJCI, mais aussi passer en revue certaines avancées notoires, mais aussi des défis qui restent à relever en matière de droit de loi en Côte d'Ivoire. Hein. Lorsqu'on a parlé donc de la loi sur le mariage, nous avons parlé de la lutte contre les violences basées sur le genre, la lutte aussi pour contrer les grossesses en milieu scolaire, les avancées en matière de mariage, de succession, de filiation. Nous n'aurons pas été exhaustifs, loin s'en faut, on va des missions quasiment impossibles en deux rendez-vous. Mais déjà, voir avec vous, avant qu'on ne vous libère, donc, ne vous dise au revoir, qu'est-ce que vous aimeriez que nos auditrices auditeurs retiennent de ces deux rendez-vous, Maître Francine Akangui?
Merci. Ce que je voudrais que les auditeurs retiennent, c'est que l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire est là à leur service. Vraiment, nous sommes là pour leur expliquer le droit, pour vulgariser les textes de droit. Nous sommes à leur disposition. Qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, qu'ils n'hésitent pas à nous saisir. Nous nous déplaçons dans toute la Côte d'Ivoire. Qu'ils ne se disent pas que c'est juste à Abidjan. Non, nous sommes disponibles sur toute l'étendue du territoire. Pourvu qu'il y ait le maximum d'Ivoiriens qui connaissent leurs droits, qui connaissent leurs devoirs, pour que vraiment le pays se porte mieux.
Très bien, c'est aussi notre mission, nous, en tant qu'hommes donc des médias, et médias pour informer les populations. Alors, très rapidement, à votre niveau, vous en tant que donc avocate, mais aussi président du conseil d'administration de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, quels sont selon vous les grands défis, les domaines dans lesquels la Côte d'Ivoire a encore des défis à relever lorsque l'on parle de droits et devoirs?
Alors, on a un grand défi dont on n'a pas parlé, qui sont les droits à la santé sexuelle et reproductive.
Nous pourrons ça, en parler la prochaine fois.
On pourra en parler la prochaine fois.
D'accord, allez-y.
D'accord. C'est un grand défi parce que c'est toutes les questions relatives justement aux grossesses et donc aux moyens contraceptifs, à l'avortement. Et dans ce domaine-là, la Côte d'Ivoire n'a pas encore de loi.
Pas de loi du tout.
Pas de loi du tout. Je pense que ça...
Ce qui n'est pas normal.
C'est vraiment un grand défi pour lequel nous menons des plaidoyers et nous espérons que ces plaidoyers vont aboutir. Pour le reste, il faut accentuer la sensibilisation et comme je le disais, il faut vraiment que les acteurs politiques, les acteurs de développement accompagnent la société civile sur ces questions-là. Parce que c'est ensemble que nous pouvons arriver à éradiquer tous ces fléaux. Si nous restons, nous, dans notre rôle de société civile et eux, dans leur rôle de politique, vous voyez qu'on n'avance pas.
En tout cas, rendez-vous sera pris très prochainement avec vous donc pour parler de droit à la santé sexuelle et reproductive, enjeux et défis en Côte d'Ivoire. Nous vous en faisons la promesse, le temps n'est pas de préparer cette émission. Mais déjà, toute l'équipe de production de Mon Droit au quotidien, et je voudrais donc remercier Antoine Kouassi pour la prise de son de ces deux rendez-vous. Vous dis en tout cas merci de votre disponibilité, Maître Francine Aka Angui. Je rappelle donc avocate près le barreau de Côte d'Ivoire et présidente du conseil d'administration de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, AFJCI. Merci d'avoir répondu présente à nos deux rendez-vous.
Merci à vous, Radio de la Paix, d'être toujours à nos côtés et de faire vraiment la promotion des droits et des droits de la femme en particulier.
Quant à vous, mes auditrices et auditeurs, je vous dis merci de votre fidélité à Mon Droit au quotidien, l'un des magazines les plus suivis que vous appréciez beaucoup sur Radio de la Paix. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie sur ces deux rendez-vous. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre sujet dans le cadre de Mon Droit au quotidien, par la grâce de Dieu. Dans l'attente, portez-vous bien toutes et tous dans la bonne connaissance de vos droits et devoirs.
C'était Mon Droit au quotidien, votre magazine de promotion et de vulgarisation du droit. Présentation à Aoussi Boutin.